Dutrisac. Des propos cohérents.
Des opinions différentes. Vous écoutez
Dutrisac.
Avec Antoine Robitaille et Philippe-Vincent Foisy pour parler de politics. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bon, alors,
oui,
le English Montreal School Board fait des siennes encore.
La commission scolaire English Montréal, je te corrige.
Non, le English Montreal Motherfucker School Board. They don't give a shit about French people.
Quand même, là.
Hey, c'est des braillards, c'est des
fatigants. Ils sont en cours d'appel aujourd'hui. Hmm. Ils demandent l'autorisation d'appliquer immédiatement le jugement Blanchard sur la loi 21.
Claude?
Puis... Ça. Comprends-tu?
Une fois, c'est un gars, comprends-tu?
Une fois, c'est une commission scolaire, comprends-tu?
Elle
se présente devant la cour d'appel, puis elle dit: coudonc, toi, peux-tu me permettre d'appliquer?
Speak English, you bastard!
Peux-tu me permettre d'appliquer le jugement Blanchard? Ça me permettrait d'embaucher du monde qui ont des signes religieux, comprends-tu?
Puis fermer à 3 heures. OK, c'est correct.
Mais. Et je rappelle là que c'est vrai que le jugement Blanchard sur la loi 21, en première instance, avait tranché ainsi. C'est-à-dire qu'en vertu de l'article 23 de la Charte canadienne, il y a des droits aux minorités anglophones et francophones, et la commission scolaire anglophone, selon M. Blanchard, Maître Blanchard, Marc-André Blanchard, pour le juge, ne devait pas appliquer la loi 21, parce qu'elle a une autonomie de gestion. Et donc il y a deux Québec dans un ici pour la laïcité, c'est clair. Et tout ça est en appel actuellement, là. Mais la commission scolaire English Montréal, ils vont devant les tribunaux pour dire: hey, le jugement Blanchard, veux-tu l'appliquer tout de suite?
Parce
qu'il y a une présomption de constitutionnalité des lois, surtout quand une loi est en appel. Et déjà, tu sais, c'est ce jugement-là est donc critiqué, suspendu, tout ça. Les autres disent non, il faut que la partie du jugement Blanchard qui nous concerne, qu'on puisse l'appliquer tout de suite. Première chose intéressante. Donc,
parce que le English Montreal School Board, Philippe Vincent, fait pas partie de Montréal. Il fait partie du club de Ballarama Holness où on vit à Cincinnati.
Chez Montréalais,
ouais. Ah oui, c'est ça.
Ben, c'est intéressant. La deuxième chose intéressante, c'est le juge qui va entendre l'affaire, c'est Frédéric Bachand. Et Frédéric Bachand, il a longtemps été le VP, le vice-président de l'Association des libertés civiles canadiennes. C'est un organisme qui s'est opposé à la Charte des valeurs, qui est venu ici en commission parlementaire, contre la loi 62 du gouvernement Couillard. Je ne sais pas si tu te souviens, qui bannissait le visage couvert dans les services publics, quand on reçoit et quand on donne des services publics. Il s'est opposé évidemment à la loi 21, tellement qu'il est une des parties dans la contestation de la loi 21. Ça veut dire que il travaille contre la loi 21 devant les tribunaux, et même actuellement en appel, l'Association des libertés civiles canadiennes se bat contre la loi 21. Et là, lui, Frédéric Bachand, le juge, qui est un juriste vraiment qui a quand même une carrière remarquable, et en plus, autre affaire remarquable, il a dit, écoutez, j'ai été 10 ans vice-président de l'Association des libertés civiles. Mais il n'y a aucune partie qui a trouvé ça problématique. Ben même oui. Le mouvement laïque québécois, ça, je comprends pas. C'est le bout que je comprends pas. Moi, je pense qu'il aurait peut-être dû se récuser, monsieur Bachand. Tu sais, un peu... C'est le même genre de problème que posait la juge Nicole Duval-Esler,
ben oui.
Qui était vraiment... tu sais, qui participait aux activités de l'organisation Lord Reading. Ben, c'est quand même un lobby aussi qui s'est opposé à la loi 21. Donc, comment ces juges-là... Imaginons l'inverse, là. Tu sais, t'as quelqu'un qui a passé toute sa vie au mouvement laïque québécois, mettons 10 ans comme vice-président ou président, qui devient juge. Est-ce qu'il peut juger une loi sur la laïcité? Okay, il semble qu'il y a trop milité dans un sens.
Ma question pour vous deux, là, c'est quelle chance a la loi 21 face à ça?
Moi, il y a quelque chose avec les juges qui me surprend toujours. J'ai comme tendance à ne pas prétendre savoir ce qu'ils vont faire. Et des fois, ils ont vraiment une tendance à nous surprendre. Alors, je vais garder ce jugement-là en me disant, peut-être qu'on va être surpris. Peut-être qu'il y a des points de droit où, dans l'application, le juge va déterminer que ça ne s'applique pas en ce moment parce que il y a eu cette présomption-là. Puis tant que ça n'a pas été débattu sur le fond, on n'est pas capable d'aller de l'avant. Parce que ça peut être juste sur une technicalité où le juge fait, ah non, ça fonctionne pas, comme cette technicalité-là peut prendre le bord vu une certaine...
Alors, toute l'identité du Québec repose sur les épaules d'un juge choisi comme...
Il y a un système, une cour d'appel après.
Ça finit plus, là. Lui...
C'est la cour d'appel, là.
Ouais. C'est ça, c'est juste cour suprême.
C'est en cour d'appel. Donc, c'est en cour suprême, mais un de ses co-militants à l'Association des libertés civiles, il est devenu juge à la Cour suprême. Mais ce que je veux dire, moi, c'est que, tu sais, je reçois des lettres, des téléphones de grands juristes qui auraient voulu être juges au Canada. Or, ils ont commis le crime, à un moment donné, d'être plutôt pro-laïcité. Et ça, c'est un motif d'exclusion, surtout sous le gouvernement libéral, mais... Plus généralement, on le voit à quel point ça transcende des partis politiques au Canada anglais. On ne comprend pas cette notion-là de laïcité. Et c'est dommage parce que on parle toujours de l'importance de la diversité dans la magistrature. Or, sur le plan idéologique, y en a-t-il une? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de profilage idéologique qui fait que tu as écrit une lettre pro-laïcité en 1992 ou en 2002 dans une lettre ouverte dans un journal, puis les gens disent « Ah, on voit où tu te situes. »
Ça discrédite ton jugement. Mais l'inverse...
C'est un motif d'exclusion.
Si cette tendance-là s'accentue, ça va devenir un problème, parce qu'on va se mettre à politiser les juges, puis on va se mettre à dire « On va voter pour un parti au fédéral qui va nommer les juges laïcs. »
Mais Philippe-Vincent, je crois que c'est déjà fait.
C'est ça que je veux dire. Là. Ça
on
se
est
fait,
comme
mais pour
aux
l'instant,
États-Unis, on est comme aux États-Unis, mais on est assez hypocrite. Personne ose soulever cette question-là. Même le mouvement laïque se sent mal de dire « Hey, Bachand, il a été à l'Association des libertés civiles canadiennes. » Ils l'ont même pas dit. Ils n'ont même pas dit. Ben, ça n'a pas de bon sens, récusez-vous. Tu sais. Moi, ça me fascine, en tout cas.
Alors, c'est que pour le moment, ça s'est fait sur le sceau de la diversité, d'idéaux, mais de diversité physique, là, disons, ethnographique.
Avant, c'était la souveraineté. Tu sais, c'était la question de la souveraineté qui est un motif d'exclusion. Tu sais, il y a le juge Robert à la cour d'appel dans le temps, juge en chef, qui avait dit, dans l'affaire, lorsqu'il y avait la commission Gomery, il y avait eu des questions de nomination de juge à l'époque, il avait dit... Pensez-vous qu'un juge souverainiste peut être nommé au cours supérieur d'appel puis suprême? Ben non, jamais.
OK.
Ben là, c'est la laïcité aujourd'hui.
Allons au baromètre des ministres, parce que je sais que ça vous excite tous les deux, ça.
Oui, ben. Mais moi, j'ai beaucoup parlé.
Non, ça, c'est la Constitution. On n'est pas d'accord.
Mais sincèrement, moi, j'ai trouvé ça assez intéressant de voir ce sondage léger-là ce matin, dans le fond, qui montrait quoi? Que Christian Dubé, sa cote de popularité, elle est très, très bonne. Il y a très peu de gens qui le voient d'un œil défavorable. Pourquoi? Parce que il a été quand même un bon professeur. Il a su nous expliquer ce qu'il faisait. Il a su bien communiquer. Et comme ses deux autres collègues, là, qui sont quand même... dans les trois ministres dont les Québécois ont une opinion le plus favorable, ils ont une certaine forme d'authenticité. Geneviève Guilbeault, elle a commis certaines erreurs, mais en même temps, les gens la voient comme quelqu'un d'authentique, tout comme Yann Lafrenière. Et ça, Yann Lafrenière, c'est peut-être celui-là qui m'a le plus surpris, mais en même temps, quand j'y pensais, je me disais, ben peut-être pas en même temps, justement parce que il a été habile à naviguer dans des dossiers hyper sensibles, à faire preuve de cette sensibilité-là, à faire preuve de cette écoute-là, à montrer que pour lui, c'est important. Il partait de tellement loin, là, vu qu'il venait de la police, puis les a priori étaient très négatifs à son endroit. Alors, je pense qu'il a su surprendre, rassurer aussi et montrer qu'il pouvait faire quelque chose sans nécessairement en faire beaucoup, ultimement, parce qu'en ce moment, on voit que c'est plutôt difficile.
Compte tenu des faux pas aussi de son patron en matière autochtone, écoute, c'est surprenant. On voit que lui est comme le paratonnerre là-dessus, puis ça marche.
Mais l'authenticité de ces trois-là, important.
Oui, c'est un bon point. Mais Marguerite Blais est authentique, mais ça marche plus.
38, ouais, 38 pour, 34 contre, hein, Marguerite Blais. Moi, j'étais même c'est étonné que ça soit, qu'il y ait plus de pour que de contre.
Ben, les CHSLD,
parce qu'elle parlait elle partait tellement haut. C'était toujours elle qui gagnait ça, les baromètres de personnalité politique au Québec, hein.
Ah oui?
Ah, absolument, on peut remonter. Ben, c'est l'effet de la notoriété de la télé, hein. Ça, c'est clair. Mm. Mais celui qui mange la claque, c'est vraiment Jean-François Roberge. Lui, c'est 34 bonnes opinions, 38 mauvaises. Donc, c'est le seul qui a un différentiel négatif de moins 4. Mm.
Et chez les parents, il est à 52 d'opinions négatives. Chez les parents d'enfants. Si demain, quand François Legault va faire son discours, veut parler d'éducation, le boulet qu'il tire vers le bas en ce moment, c'est son ministre qui a pas réussi à vendre ses réformes, à expliquer ce qu'il faisait. On se pose encore les questions sur le système de garde, mais aussi dans les écoles, l'école primaire. C'est hallucinant le travail qu'il y a à faire là-dedans. Peut-être qu'on lui a donné de la mauvaise mission de travailler beaucoup, beaucoup sur les maternelles 4 ans, alors qu'il aurait dû travailler sur le système scolaire de façon plus générale. Puis pendant la pandémie, il n'a pas été très bon, là. Souviens-toi que la santé publique, les échangeurs d'air, partout on nous dit que les échangeurs d'air, ça fonctionne. Puis là, on n'en a pas encore. Oh non, ça sent...
Ouais, il s'est obstiné, hein. Au lieu de dialoguer, là, puis d'échanger, puis de s'asseoir, puis d'admettre que peut-être l'opposition a de l'allure des fois. Il y a eu une tête de cochon, il s'est obstiné, puis il voulait rien savoir. Il accorde plus d'entrevues, il parle plus au monde, il veut plus rien savoir de personne.
Ouais. Mmh. C'est dommage. Même dans le couloir, quand il passe, là,
c'est dommage.
La peinture et les murs.
Ouais. Parce qu'il y en a, là, tu sais, Christian Dubé, il a pas juste fait des bons coups, là. Geneviève Guilbeault a pas juste fait des bons coups.
Mais on s'attend pas à des gens parfaits non plus.
Mais c'est ça.
OK, un mot sur M. Trudeau qui est à Kamloops.
Ça, avec l'une des chefs qui l'avait critiqué lors de son fabuleux séjour à Tofino, où il en profitait pendant la journée Vérité et Réconciliation sur la plage, alors qu'on nous avait dit qu'il n'était pas sur la plage. Donc, il va avoir une rencontre, point de presse aussi prévu vers midi, l'heure du Pacifique, donc vers 3h, notre heure, mais on me dit déjà qu'il va y avoir du retard. C'est habituel avec le bureau du premier ministre de M. Trudeau. Puis en même temps, la seule ministre nommée qui est confirmée, c'est Chrystia Freeland aux finances. Et Mme Freeland est en entrevue à CBC, à l'émission The House, durant la fin de semaine. Puis on lui a posé la question sur les programmes d'aide, hein, notamment les programmes d'aide aux particuliers, là, aux Canadiens, là, la PCRE notamment, et autres programmes qui prennent fin samedi, le 23 octobre, et Mme Freeland a dit qu'ils étaient encore en train de réfléchir à la suite des choses. Et là, je me disais, à la suite de ces programmes-là, vous êtes encore, on est à 4, 5 jours, 7 jours, il y a des gens qui dépendent de cet argent-là. Vraiment, là, ils vont pouvoir, il y a certaines prolongations, le gouvernement pourrait le prolonger d'un mois par décret, mais ça nous amènerait au 20 novembre, donc 2 jours avant la reprise des travaux parlementaires. Il y aurait ce flottement de 2-3 jours-là. Est-ce que c'est une façon de dire on l'enlève puis on va forcer les autres partis à négocier? C'est assez particulier en ce moment comme stratégie de début de mandat, si stratégie il y a, bien sûr, là, mais on va dire comme début de mandat, du gouvernement Trudeau là-dedans, alors que on se dit que le Bloc québécois a quand même des bonnes propositions. Là. On suspend la PCRE. On ne l'abolit pas, mais on la suspend. Si jamais il devait avoir une cinquième vague qui frappe vraiment fort en janvier ou en février, elle sera là pour aider. Mais d'ici là, il y a d'autres programmes qui pourraient aider de façon sectorielle, là, notamment les arts et spectacles, les arts de la scène. Mais il faut que les Canadiens qui reçoivent ça puissent retourner travailler à un moment donné. C'est un peu le message du Bloc. Là.
Avant qu'on se quitte, vraiment 30 secondes, Antoine, là, fais un effort pour le mot du ciel. Le financement des partis politiques.
Je suis incontinent, je te l'ai dit. Pour 2020, on a eu les chiffres globaux de 2020. Donc, c'est la CAQ qui arrive en premier, 682 000. Le PQ en deuxième, c'est surprenant. Un parti qui va très mal, 398 000. PLQ en troisième, 291 000. Juste devant QS. Et voilà, selon les données plus récentes, ben là, il y a un quatrième parti, un cinquième parti qui s'impose, c'est le Parti conservateur du Québec.
Qui disait?
Qui a déjà ramassé 220 000, mais en 2021.
Et c'était Robert Benoît, l'ancien président du Parti libéral, avant Marc Bibeau.
une machine à ramasser de l'argent qu'il m'avait dit.
Exactement. Il avait dit ça à la commission Charbonneau. Il l'avait dit.
Mais il l'avait dit
sans
à moi avant.
Non, à moi avant. Non, à toi, à moi avant. Hey, merci, M. Foisier, M. Robitaille.
Je pense que le Parti libéral ramassait 3 millions, 4 millions par année. Là, ils sont à quoi?
Les règles de financement étaient différentes.
Bon, mais je sais, mais il l'a dit à moi avant.
À 100 piastres ou à 1000 piastres, il y a une méchante différence.
Tu ne l'as pas dit à toi, Philippe Vincent?
Non, moi, j'étais pas là. J'étais à Ottawa.
Pas là, non.
Non, comme ça, Charbonneau, j'étais au municipal, en fait.
Hey, moi, je me suis tué, hein?
T'es
non, mais j'ai pas parlé.
T'es ceinture noire. Excuse-moi. Bravo. OK, à demain.
À demain.
Salut.